Chapitre 18. Bruno se remit assez rapidement, en apparence, de la bronchite qui le retint quelques semaines à la chambre. Il était seulement un peu amaigri, un peu pâle, quand il reprit sa fiévreuse existence habituelle. On le revit dans tous les lieux mondains, toujours charmant causeur, d'une grâce un peu nonchalante, avec ce sourire désabusé qu'il avait depuis quelque temps. Plus que jamais, il cherchait à s'étourdir, à noyer dans le plaisir le remords qui le torturait et devant lequel se cabraient son orgueil et sa faiblesse. Mais il ne pouvait échapper à l'obsession de son passé. Elle revenait sans cesse et devant elle, l'image de Floriane Palisset perdait une partie de sa puissance. Au cours de ses heures d'insomnie, de plus en plus fréquentes, il pensait à sa mère, à elle seule, constamment. Une soif ardente lui venait de la revoir, d'appuyer son front là sur son épaule, d'entendre la voix ferme et tranquille lui dire « Mon chéri, mon enfant !» Il eut tout donné, en ces minutes-là, même Floriane, pour sentir la douce étreinte du bras maternel, pour crier perdument « Maman, maman, sauvez-moi !» Mais elle n'était plus là, celle qui avait été l'appui, le conseil de sa jeunesse. Lui-même l'avait éloigné. Il ne voulait que Floriane alors. Aujourd'hui, elle ne suffisait plus à l'engourdir, l'idole charmeuse à laquelle il avait tout sacrifié. Il se rendait compte que l'amour, l'amour fou et aveugle qui l'enivrait naguère, ne le possédait plus et que l'indifférence se glissait dans son cœur fatigué. L'indifférence et le ressentiment. Sans vouloir s'avouer sa propre faiblesse, il se disait que Floriane seule l'avait conduit à l'état moral dans lequel il se trouvait, à l'abandon de tous les siens. Alors sa froideur, son impatience, essayaient de rebuter la jeune femme, et il prenait un plaisir mauvais à exciter sa jalousie. Elle était trop intelligente pour ne pas sentir, depuis plusieurs mois, ce lent détachement de l'homme qui avait brisé à ses pieds toute sa vie antérieure, tout son avenir de chrétien. Elle le connaissait trop bien, aussi, pour se méprendre à ce sujet. Quelles que fussent les apparences, ce n'était pas une autre femme qui lui prenait le cœur de Bruno, mais tout son passé, tous ses souvenirs de jeunesse, ses remords et sa mère. Sa mère surtout. Elle avait été la conscience vivante de Bruno jusqu'au jour où il avait aimé Floriane. Elle le reprenait maintenant peu à peu. La jeune femme le sentait, et elle savait que si la mère triomphait, s'en serait fait de son empire sur lui, de tout cet amour dont ils avaient vécu. Mais elle lutterait contre ses souvenirs envahissants. Avec la passion tenace qu'elle avait mise à conquérir Bruno, elle se jurait de le reprendre. Vers le mois de mars, il cessa de travailler. Moralement et physiquement, il se sentait très las. Une petite tousse opiniâtrait à ne pas le quitter. Cependant, il continuait sa vie étourdissante, sans repos. L'été le vit courir de Saint-Maurice à Deauville et de là à Biarritz. Il s'était mis à jouer, lui qui détestait le jeu. La chance le favorisait d'extraordinaires façons. Tout lui réussissait d'ailleurs. Il était l'homme que l'on encense, dont on quête l'attention. Mais, au milieu de cette existence enfiévrée, il sentait grandir un profond mépris de lui-même avec le désenchantement de tout. Lui aussi jetait le grand cri de l'homme désabusé de toutes les ivresses humaines. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais il ne revenait pas à Dieu. Son orgueil l'enfonçait plus profondément dans la faute et l'enlisait dans le désespoir. Floriane le suivait dans ses continuels déplacements. Elle l'entourait de cette tendresse caressante qui avait naguère assoupi toutes les révoltes de sa conscience. Parfois, il lui semblait qu'elle le reprenait encore, qu'elle retrouvait le Bruno aveuglément épris des années écoulées. Ce n'était que de brefs sursauts d'un amour expirant, et il se faisait de plus en plus rare. Au milieu de septembre, tous deux se trouvèrent à Dinard, chez un écrivain anglais avec lequel Bruno s'était lié intimement. Un soir, leur hôte les emmena chez une de ses compatriotes, Lady Arnolds, qui réunissait dans sa villa une société choisie et aimait recevoir les célébrités littéraires. Bruno, très fatigué ce jour-là, réussit au bout d'une demi-heure à quitter les salons sans être remarqué et, contournant une pelouse éclairée par la lumière de l'intérieur, alla s'accouder à une terrasse dominant la mer. Une nuit claire s'étendait sur les flots dont Bruno distinguait les petites vagues courtes sur lesquelles dansait le reflet des étoiles. L'air sentait le sel et les pins. Mais Bruno ne l'aspira pas. Rien, maintenant, n'éveillait en lui une sensation agréable. Il était là, là de tout. Il voulait en ce moment se reposer un peu, quelques instants seulement, pour ne pas sentir trop longtemps cette soif inextinguible dont son âme brûlait et que la distraction sans trêve apaisait factissement. Mais telle était sa fatigue ce soir qu'il s'engourdit dans cette immobilité. Les images familières, alors, se mirent à accourir en foule, les images d'autrefois, parmi lesquelles dominait le cher visage de sa mère. Un bruit de pas et de voix vint l'enlever à son rêve. Il se détourna et vit un couple qui se dirigeait de son côté. Il reconnut un cousin d'Henri de Marge, M. de Vrigné, qui possédait une villa à Dinard et que Bruno avait connue à Varlaumont. La jeune femme vêtue de blanc qui l'accompagnait était Madame de Marge. Bruno avait rompu sans bruit avec ses amis comme avec sa famille. À Paris, quand il leur arrivait de se rencontrer, au dehors ou chez des connaissances communes, ils se saluaient, échangeaient quelques phrases banales, sans aucun rappel du passé, comme des étrangers. Mais Bruno évitait les occasions de ce genre, qui lui laissaient une impression désagréable, car il savait trop bien ce qu'Henri et Hélène pensaient de lui, et le ferme regard de son ami lui était insupportable. Cependant, comme il ne pouvait ce soir passer inaperçu, il s'avança et s'inclina devant la jeune femme, qui avait eu un léger mouvement de surprise. « Ah, monsieur Ferrière » dit-elle. Elle ne lui tendit pas la main. Bruno serra celle de monsieur de Vrigné, tout en disant d'une voix qu'il s'efforçait de rendre indifférente « Je ne vous savais pas à Dinard, madame. Nous sommes pour 15 jours chez notre cousin, avec les enfants. Henri va bien ?» « Très bien, merci. » Tout en lui répondant, elle le considérait discrètement et, en dépit de la demi-obscurité, fut frappée de son changement physique. Ce visage creusé, ses yeux mornes et fiévreux, étaient ceux d'un malade. Elle demanda, d'un ton tout à coup moins froid, « Et vous, monsieur, comment allez-vous ? » Il eut un geste vague. « Je n'en sais rien, je ne m'occupe pas de ma santé. »« C'est un tort. » »« Cela dépend. » Elle n'insista pas et parla de la soirée de Lady Ernolf, amie intime de Madame de Vrigné. Bruno écoutait et répondait machinalement. La jeune femme dit tout à coup « Robert, vous seriez très aimable d'aller me chercher mon manteau. Je sens la fraîcheur et cependant j'aimerais demeurer encore ici car la chaleur des salons me fatigue. » Monsieur de Vrigné s'éloigna. Hélène, alors, se rapprocha de Bruno et posa sa main sur son bras. « Votre pauvre mère a été très malade cet hiver, » dit-elle gravement. Il tressaillit, resta un moment silencieux et balbutia. « Elle va mieux ?»« Oui, mais elle souffre beaucoup moralement. » Il garda le silence. Madame de Marge vit qu'il frissonnait. « Vous ne voulez pas la voir ?» Il recula. « La voir ? Non, c'est impossible. »« Elle vous attend chaque jour. » Elle dit, il reviendra, il n'est pas possible que mon enfant se perde irrémédiablement. Et elle expie durement pour vous, je le sais, je m'en suis aperçu. Il eut une sorte de rauque sanglot. Devant lui, dans la pénombre, se dessinait le beau visage d'Hélène, où les yeux brillaient d'un doux éclat. Il s'aperçut qu'elle pleurait, la jeune femme pure et fervente, celle qu'il n'avait jamais osé comparer à Floriane, celle qui complétait si bien, dans une admirable union chrétienne, la forte personnalité d'Henri de Marge. Une émotion violente le bouleversa. Il se courba devant Hélène en murmurant « Ah, si elle avait été comme vous !» Monsieur de Vrigné revenait. Madame de Marge demanda, la voix étouffée par les larmes « Que dirais-je à votre mère ?» Il répondit tout bas, d'un ton de désespoir « Dites-lui que je souffre comme tous les damnés ensemble et que je l'aime toujours. » Il s'éloigna et rentra dans les salons. Mais peu après, il s'éclipsa sans prévenir Floriane et s'en alla errer sur la grève tout le reste de la nuit. La brise du large séchait sur ses joues des larmes brûlantes. Mais elle ne pouvait calmer cette douleur désespérée qui refusait de se tourner vers Dieu dont elle avait peur. À l'aube, il rentra. Dans sa chambre, Floriane l'attendait. Elle s'élança vers lui.
« Enfin, qu'as-tu fait? Pourquoi me laisses-tu dans cette inquiétude ?»
Il répondit d'un ton lassé. « J'ai oublié, c'est vrai. »
« Tu as oublié que j'attendais, que je me tourmentais, mais tu ne penses donc plus à moi ?»
Elle jetait ces mots dans un cri de surprise douloureuse. Sa main s'appuyait sur l'épaule de Bruno, son visage s'approchait de cet autre visage émacié, blêmi, près duquel s'avivait l'éclatante blancheur de son teint. Avidement, elle cherchait à lire dans les yeux fatigués. Mais elle les vit se détourner. Bruno n'avait même pas tressailli à cette interrogation passionnée. «
Voyons, tu ne vas pas me faire de scène, Floriane, ce serait un peu ridicule. »
« Ridicule, ridicule de m'inquiéter, de te demander si je suis encore ta Florie, uniquement aimée. Ah, tu ne m'aurais pas dit cela, naguère, mais je veux savoir à qui tu penses, puisque ce n'est pas à moi. »
Il s'écarta légèrement, en répondant avec froideur.
« Tu n'as rien à exiger. Si je déserte mes devoirs, c'est toi qui m'y as amené, en m'enlevant le soutien de mes croyances, en me séparant de tous les miens. » « C'était pour que tu m'aimes davantage, pour que tu m'aimes seule, plus que tout, comme tu me l'as si souvent assuré. Souviens-toi !»
Elle s'avançait, approchait son visage de celui de Bruno. Il répondit d'une voix âpre sans la regarder.
« Oui, je me souviens. Redis-le-moi, redis-le-moi, Bruno !»
Il s'écarta de nouveau et cette fois la regarda. Rien ne frémit sur sa physionomie devant cette figure de femme, toute palpitante de supplications passionnées. Il dit d'un ton las, un peu brisé,
« Je ne peux plus, ce ne serait pas vrai, tu as été tout pour moi. Maintenant, tu n'es plus qu'une habitude, un souvenir, un remords. »
Elle lui saisit le bras et le serra inconsciemment.
« Qui aimes-tu? Qui t'enlève à moi ?»
Il se dégagea en répondant, « Ma mère, cette nuit, c'est à elle que j'ai pensé, c'est vers elle que s'est lancé mon cœur fatigué. »«
Ta mère ! Ah, je le soupçonnais bien, va ! C'est elle qui te reprend à moi par son seul souvenir. »« Bruno, faut-il donc que tu m'aies tout sacrifié pour t'éloigner de moi maintenant ?»
Il s'écria douloureusement.
« Ah, ne me rappelle pas ces sacrifices-là. Ils me rongent, ils me tuent. Comment ai-je pu en arriver là ?» Je t'ai livré mon âme, Floriane. Tu l'as perdue. Que réclames-tu encore ?
Il prit son front à deux mains en ajoutant
« Laisse-moi. J'ai la fièvre. Il me faut la solitude. Va, Floriane, va te reposer. Je regrette de t'avoir inquiété, mais tu as eu tort de m'attendre. »
Elle dit avec une sourde véhémence
« Je t'attendrai tous les jours. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu me reviennes. »